Bonjour et bienvenue sur YogiBiz Podcast, le yoga teacher training du marketing pour les yogipreneurs qui veulent impacter des millions de vies positivement grâce au yoga. Je suis Cécile, coach et accompagnatrice digitale spécialisée pour les professeurs de yoga. Et chaque semaine, je vous délivre des inspirations, stratégies et conseils marketing éprouvés et applicables immédiatement pour vous construire un business de yoga authentique et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti! Bienvenue dans ce nouvel épisode de YogiBiz Podcast, un épisode interview aujourd'hui. Mais juste avant, petit rappel, si tu écoutes cet épisode avant le 15 avril, je t'invite à t'inscrire sur la liste d'attente de mon programme de coaching collectif YogiBizLine qui va donc bientôt rouvrir ses portes. YogiBizLine, c'est un programme qui t'aide à développer ton activité de prof de yoga en ligne, qui va surtout t'aider à prendre ce virage du digital et à construire les fondations solides d'un business de yoga en ligne. Et cerise sur le gâteau, tu vas également apprendre comment créer des offres de yoga en ligne, comment les créer, mais aussi les promouvoir et les lancer pour pouvoir vivre petit à petit de ton activité de yoga en ligne. Donc si tu as pris conscience que le métier de prof de yoga aujourd'hui a changé, que le virage du digital est incontournable, que c'est la nouvelle réalité, mais que tu souhaites te faire accompagner dans cette nouvelle aventure, YogiBizLine est fait pour toi. Je t'invite à t'inscrire sur cette liste d'attente parce que les places seront limitées et les personnes inscrites sur la liste d'attente auront l'ouverture des portes de YogiBizLine en avant-première. Donc tu seras sûre d'avoir ta place et plein d'autres surprises encore. Voilà, tu peux retrouver le lien pour t'inscrire dans les notes de cet épisode ou dans ma bio sur mon compte Instagram @yogibizcoaching. Et moi, j'ai déjà hâte de démarrer cette nouvelle promo YogiBizLine. On revient à notre épisode du jour. Aujourd'hui, je partage mon micro avec Juliette alias Jus de Pêche sur Instagram. C'est l'histoire de la reconversion d'une trentenaire carriériste complexée en une yogipreneur épanouie, même en lingerie. Tu comprendras cette petite private joke si tu écoutes l'épisode. Tu découvriras comment Juliette a su puiser dans ses forces pour s'autoriser à enseigner le yoga et à offrir aujourd'hui un yoga bienveillant, joyeux et décomplexé en ligne. Juliette nous confie toutes ses tribulations de prof de yoga en ligne, de la panique des débuts jusqu'au plaisir qu'elle prend aujourd'hui à tester de nouvelles choses et à se réinventer grâce aux cours en ligne qui lui permettent une nouvelle liberté dans son enseignement. Elle vous livre généreusement sa pédagogie pour pimper ses cours, de quoi sincèrement vous inspirer si vous vous essoufflez un peu. Parfaite ambassadrice du yoga en ligne et consciente de la révolution de la consommation du yoga, Juliette s'est lancée cette année dans la création de son premier programme de yoga en ligne. Et elle va nous confier dans cet épisode les coulisses de la création de son projet, de la procrastination du début à un lancement réussi. Comment lui est venue l'idée, comment a-t-elle créé le contenu, défini le prix de son programme, mais également comment elle a communiqué et comment ce premier lancement lui a ouvert les yeux sur la puissance d'un produit digital pour capter de nouveaux clients et consolider son activité de prof de yoga. Le tout avec, vous allez le voir, un vrai mindset de CEO, une bonne dose de vision, des prises de risque, du test and learn et un état d'esprit où l'échec devient apprentissage et où la peur devient moteur. Le mieux, c'est que je laisse sans plus attendre place à ma conversation inspirante avec Juliette, Juliette souriante et pipelette. Bienvenue Juliette, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur YogiBiz Podcast.
Merci Cécile, moi aussi je suis très 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 contente d'être là, c'est vraiment un honneur et c'est un peu une consécration, je le dis.
Merci. C'est un beau cadeau que tu me fais en tout cas. Et du coup, alors moi, je te connais parce que je te suis quand même déjà depuis quelques mois. On avait déjà eu l'occasion d'échanger il y a quelques temps de ça, au temps du premier confinement. Hein, donc, YogiBiz venait de voir le jour et YogiBiz Podcast était peut-être même pas encore créé à l'époque. Mais pour nos auditeurs, nos auditrices, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus de toi et nous dire qui tu es, Juliette ?
Donc moi, je m'appelle Juliette, j'ai 32 ans, bientôt. Je suis professeure de yoga, c'est une reconversion depuis bientôt 3 ans. Avant, j'étais commerciale dans le monde de la formation, donc la formation professionnelle pour les entreprises. J'ai fait une reconversion assez lente, ça a été une transition au fur et à mesure, puisque quand j'ai fait mon teacher training, j'avais pas forcément pour ambition d'enseigner. J'avais surtout envie d'aller plus loin dans l'univers du yoga, d'en savoir un peu plus, d'approfondir ma pratique, même si en vrai c'est pas du tout ça un teacher training. Mais et puis en fait, de fil en aiguille, je me suis découvert une passion pour l'enseignement, pour le partage, la transmission. Et puis j'ai commencé à donner un cours, puis deux, puis trois. Et puis petit à petit, mon job a pris de moins en moins de place pour créer de plus en plus de place pour le yoga. Et donc aujourd'hui, c'est mon job à temps plein.
Ok, donc prof en parallèle, de yoga à temps plein. Tu es connue sur Instagram sous le pseudo Jus de Pêche, c'est ça ?
Oui, tout à fait. J'ai failli faire un autre pseudo pendant un moment, j'avais appelé mon profil différemment, mais en fait c'est vraiment le pseudo qui me colle, qui me va bien. Donc voilà, c'est le pseudo sous lequel on peut me retrouver, tout à fait.
Et en parallèle, tu disais ?
Je disais qu'en parallèle, je fais aussi du mannequinat depuis un peu plus d'un an. Je travaille pour des marques de lingerie, un petit peu aussi des marques de yoga. Donc je suis assez fière de pouvoir représenter les modèles taille 42-44, aussi bien dans le yoga que dans la lingerie, voilà.
Alors, bah justement, on va sûrement en parler, Juliette, si on considère que tes débuts du coup de prof de yoga sont encore assez récents. Est-ce que justement, pour te lancer, tu as eu à affronter une ou plusieurs croyances limitantes peut-être ? Est-ce que tu as eu du mal à trouver ta légitimité ? Et si c'est le cas, effectivement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes débuts du coup et de ces différentes peut-être peurs qu'on peut avoir quand on démarre ou quand on se lance ?
Oui, bien sûr. Bah, clairement, déjà, moi, quand j'ai fait ma formation de prof, je me disais, ouais, mais déjà, qu'est-ce que je fais là ? Je me suis remise en question beaucoup de fois pendant les week-ends de formation en me disant, mais regarde-toi, t'as clairement pas le physique, t'es pas souple, tu fais pas de handstand. Enfin, il y a plein de choses où je me sentais énormément à la ramasse. Donc, si tu veux, quand on nous a posé la question, qui veut enseigner à la suite de son teacher training ? Moi, j'ai pas levé la main. Je me suis dit, moi pas du tout, enfin clairement pas. J'ai beaucoup de choses à apprendre et je serai pas un bon prof. Donc premier truc, et puis en fait on a travaillé sur ça pendant la formation en se demandant quelles sont justement les croyances limitantes qu'on a dans notre vie qui nous empêchent d'être pleinement heureux. Et moi j'ai vite décelé que c'était l'impression d'avoir toujours été trop grosse pour pouvoir faire des choses, pour pouvoir accéder au bonheur en couple, pour pouvoir accéder à une vie professionnelle parfaitement épanouissante, à me débarrasser de mes complexes. Et puis, de fil en aiguille, j'ai réussi à faire taire cette petite voix que j'avais dans la tête qui me disait « mais t'es trop grosse pour être prof ». Parce que regarde, actuellement, les profs de yoga, c'est forcément des gens très minces, très souples, qui font des postures de malades, qui postent sur Instagram comme ça, ils ont toujours l'air impeccables et tout. Toi, tu passes ton cours à remettre ta brassière en place, ton legging, à te recoiffer, à t'éponger le front, enfin, c'est une catastrophe. Et donc j'ai réussi à quand même faire un travail de déconstruction, à me dire, mais en vrai, si toi tu ressens ça, t'es probablement pas la seule en fait. Il y a probablement des gens qui, à leur tour sur leur tapis de yoga, que ce soit des élèves notamment, ont aussi ce sentiment. Et peut-être que ça pourrait leur faire du bien, en fait, de voir que il y a des profs un peu comme eux. Et c'est là où j'ai travaillé tout un truc en me disant, c'est vrai que plein de choses, en fait, dans ma vie, de manière générale, que ce soit une activité sportive ou autre, on s'identifie un peu en se disant, soit je suis comme eux, soit je suis pas comme tel, soit comme eux. Et ça nous bloque comme si on n'était pas comme il faut. Et puis, alors qu'en fait, un prof, quel que soit son physique, il est capable de pouvoir transmettre énormément de choses parce que, scoop, il y a la voix, il y a la manière dont on va préparer un cours, ce qu'on a envie de transmettre, l'énergie qu'on fait passer. Et puis ça, je me suis dit, mais ça, tu l'as en fait. Enfin, moi, j'ai fait pas mal de théâtre. Je faisais même une école professionnelle jusqu'avant le premier confinement. Donc, je suis habituée à être sur scène, à gesticuler, à parler. Et je me suis dit, mais puise là-dedans, quoi. Va puiser là-dedans. Ton corps sur scène, c'est ton meilleur outil. Pourquoi ce serait pas le cas sur un tapis de yoga, en fait, devant d'autres gens qui, au final, si t'es honnête avec toi-même, ne viennent pas pour ton physique, mais viennent vraiment pour ce que tu vas pouvoir leur apporter. Voilà, ouais, donc j'ai pété cette croyance limitante en me disant, mais en vrai, je vais m'interdire pendant combien de temps de faire des choses qui me font kiffer. Parce que les gens qui sont venus à mes cours tests avant que je passe mes examens, c'était des collègues de travail de l'époque, c'était des copines, des copains, des gens qui n'avaient jamais fait de yoga, qui sont venus vraiment pour me soutenir. Et je me suis dit, ils sont venus pour me faire plaisir, mais pas que. Ils sont venus aussi parce que ça leur a donné envie d'essayer. Et rien que ça, ça te montre que ce que tu peux amener en tant qu'être humain a de la valeur, tout simplement.
Et c'était une base. Donc, gros travail. Hein.
Tout à fait. Mais gros travail, parce que ça veut dire que on doit apprendre à se faire confiance, à avoir confiance en soi, et puis surtout à voir un peu plus loin que le bout de son nez, à aller demander de l'aide aussi. Tu vois, à un moment donné, bon, ça peut faire du bien, pas pour se rassurer, mais pour au contraire se faire un peu secouer les puces. Ouais. Et se dire, mais ça va être ton excuse pendant combien de temps, tu vois? Parce que moi, je pense que pendant longtemps, c'était un peu... ça m'arrangeait bien, en fait.
Donc finalement, le yoga teacher training, ça a été un vrai game changer dans ta vie, parce que ça t'a fait complètement shifter au niveau du mindset et au niveau des possibilités, des opportunités qu'il y avait devant toi, en fait.
Tout à fait. Et ça a été hyper challengeant. J'en parlais hier avec une élève qui vient elle-même de se diplômer. Mm-hmm. Et on disait que c'est un parcours initiatique, enfin, un teacher training. Moi, j'ai vu le week-end où on nous a fait faire 108 salutations au soleil parce que c'est un rite qui existe en yoga. Mais au bout de 30 salutations, j'étais en larmes sur mon tapis. J'ai dit, mais je me casse, je ne veux plus être là, c'est horrible, j'en peux plus, c'est de la torture psychologique, physique et tout, mon corps, il ne suit plus. Et en fait, bah si, quoi, enfin, ça fait partie du truc. Et on apprécie le chemin. C'est un truc que j'aime bien transmettre aux élèves, on pourra en parler plus tard, mais on voit toujours une destination. On veut toujours atteindre un but. Et en fait, on oublie souvent de se préoccuper de comment ça se passe en chemin. Et c'est ça qui m'a énormément aidée, et c'est ça qui a été le game changer, c'est de me dire, ok, alors j'ai pas perdu de poids pendant mon teacher training, c'était, si ça avait été un objectif, mais pour le coup, ouais, je me suis sentie différente après, et puis j'ai appris énormément de choses, et ouais, ça m'a changé la vie, parce que ça m'a permis de m'autoriser d'autres choses, et puis de me rendre compte que le yoga m'avait manqué, parce que pendant un temps j'en faisais plus à cause de mon dernier job qui était trop consommateur de temps et d'énergie, donc je faisais plus du tout de yoga, et je me disais, il me manque un truc. Au même titre que quand j'ai repris le yoga, j'ai repris le théâtre aussi. Mm-hmm. C'est là où je me suis autorisée à faire une école professionnelle et à me dire, en fait, alors il y avait la partie physique, mais il y avait aussi la partie de se dire, mais attends, mes parents m'ont payé une école de commerce en 5 ans. Je voulais être une top manager, directrice du monde, à faire des déplacements internationaux et tout. Enfin, moi, j'avais une vision très carriériste. Et là, je suis en train de tout reléguer au second plan pour passer ma vie en legging et en brassière, à enseigner et à chanter des homes. Je me suis dit, mais mes parents vont le prendre comment? Et en fait, mes parents l'ont très bien pris. C'était encore une fois de plus moi qui pensais à tort que c'était pas bien, parce que on remet pas en cause des années d'études, un cursus brillant et tout. Et en fait... je me suis dit, mais tu as 30 ans, enfin, fais ce que t'aimes, quoi. Et donc, à une époque, j'étais prof de yoga et comédienne, quoi. Et c'était... Il y a des matins, je me disais, putain, mais c'est quelle chance. Et en même temps, bah ouais, mais ça y est, je me suis enfin donné les moyens, donc je vais au bout du truc, quoi.
Et c'est trop cool. Tu t'es autorisée à suivre tes rêves aussi, un petit peu, en fait, et puis à suivre...
Tout à fait.
Ton intuition, ce que tu avais envie de faire. Et est-ce qu'on peut dire que tu as finalement donc utilisé un petit peu ta propre histoire pour te positionner aujourd'hui?
Alors, oui, malgré moi, parce qu'en fait, c'est vrai que je n'ai pas vraiment eu l'ambition de dire, voilà, dans mes cours, je n'accueille par exemple que des personnes qui sont potelées ou autres, parce qu'au final, le mal-être intérieur, il concerne tout le monde. Il peut concerner des personnes très minces comme des personnes très enrobées, des personnes très grandes, très petites. Donc, je voulais réussir à montrer qu'en fait, les complexes, chacun les siens, mais on peut les mettre de côté sur son tapis, tu vois. Bon, moi, mon complexe, c'était par mon côté potelé, le fait d'être assez ronde, mais je voulais pas m'enfermer dans quelque chose. Donc au début, j'ai surtout voulu mettre l'accent sur des cours bienveillants et joyeux. Parce que je trouvais que les cours de yoga pouvaient être un peu austères, un peu trop sérieux, un peu trop prise de tête. Alors c'est pas pour autant que j'autorise le bavardage en cours, hein, alors que ça a été mon fléau toute ma vie quand moi j'étais élève.
C'est pas la récréation non plus, hein, dans les cours de yoga.
Exactement.
Juliette.
J'allais en cours de yoga seule parce que je savais que si j'allais avec une copine, j'étais pas du tout dedans. Ça me cassait complètement ma bulle, alors que justement le yoga m'avait permis de me découvrir un intérêt pour les temps calmes et me rendre compte que ça fait du bien de se taire de temps en temps. Donc c'est pas non plus la récréation dans mes cours, mais c'est un cours où je fais l'effort, enfin c'est même pas, non, je fais même pas l'effort, c'est je veille à ce que les gens, quelle que soit mon humeur, soient accueillis avec le sourire et repartent avec le sourire, parce que c'est ma mission que je me suis donnée de faire passer des bons moments aux gens, en fait. Et c'était sur ça que je me suis positionnée. Après, la partie physique, bon, bah, ça a été un peu une conséquence naturelle. C'est que ça a permis à d'autres femmes, alors, je dis les femmes parce que même si j'ai des cours mixtes, j'accueille quelques hommes, j'ai quand même 95% de ma clientèle qui est féminine. Ça a permis en fait de voir popper en cours bah, des gens qui m'ont dit très clairement, bah, moi c'est mon premier cours et en fait je viens parce que ton physique m'a donné envie de venir. Donc au début ça fait bizarre.
Ils ont réussi à s'identifier en fait.
C'est ça. Tu dis ah ok. La raison pour laquelle je voulais pas enseigner devient aujourd'hui une raison qui fait que les gens viennent. Donc tu te dis bon ok soit très cool. Et donc en fait aujourd'hui mes élèves c'est très varié tu vois. Mais je suis pas dans leur tête pour savoir qu'est-ce qu'ils sont venus chercher sur le tapis et qu'est-ce qu'ils sont venus chercher auprès de moi. Il y en a qui se confient sur des complexes ou des raisons ou autres. Mais encore une fois avant tout je suis là pour que les gens viennent passer un bon moment, se challenge, mais sans être en mode compétition vénère, repartent avec le sourire. Et même s'ils ont passé un tiers du cours en posture de l'enfant parce qu'ils étaient épuisés moralement ou physiquement, bah c'est pas grave, ils sont quand même venus capter un peu d'énergie, j'ai réussi à faire passer quelque chose par ma voix, ils ont découvert une nouvelle posture et c'est ça en fait qui m'anime. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, quand je me dis, j'aurais pu passer à côté de tout ça, ça aurait vraiment été dommage.
Mais le message quand même hein, que tu fais bien passer pour moi qui te suis aussi sur Instagram, parce que comme tu disais tout à l'heure aussi, hein, y a pas que le yoga dans ta vie et sur ton profil, il y a aussi par exemple le mannequinat, etc. Tu fais quand même passer cette image d'oser se mettre sur un tapis de yoga, malgré son complexe, et comme tu le disais très bien, ce que tu as vécu toi en yoga teacher training, de te dire bah, après tout, j'ai envie de montrer aussi à d'autres personnes qui sont peut-être comme moi que c'est possible et qu'elles peuvent avoir leur moment à elles sur leur tapis de yoga. Donc, effectivement, je pense que c'est quand même le message que tu véhicules à travers toi, à travers tes images, à travers ce que tu fais aussi en dehors du yoga. Il y a quand même bien cette image-là que tu souhaites véhiculer pour inspirer d'autres personnes qui pourraient avoir ces mêmes croyances limitantes ou ces mêmes complexes que toi à venir sur le tapis. Donc je pense qu'effectivement, c'est ce qui fait aussi et ce qui aide, et tant mieux, hein, ça fait partie de tes forces en fait aujourd'hui, même si à l'époque c'était peut-être pas le cas, mais c'est ce qui fait que, voilà, que tu développes aussi une belle communauté autour de ça, et tant mieux.
Ouais, c'est sûr.
Et comment ça s'est passé pour toi donc là, je vais parler un petit peu plus de ce qu'on connaît en ce moment, hein, la bascule entre le présentiel et le online. Parce que tu as quand même donné quelques cours en présentiel, hein, je pense. Et par contre, effectivement, je crois que la majeure partie du temps où tu as enseigné, ça va être maintenant le online, finalement, hein, si on compare les deux. Donc, comment ça s'est passé, cette bascule, pour toi ?
Clairement, ça a été la panique au début. Hein. C'était la panique à bord parce que ça faisait un an que je donnais des cours en présentiel. Donc, j'avais 3 créneaux pour un studio.
Ouais.
J'avais 2 créneaux dans une salle que je louais le jeudi soir où j'ai commencé d'ailleurs avec un cours. Et après, je suis très fière de ça parce qu'au début, c'était très difficile et comme quoi il faut s'accrocher. Après, c'est devenu 2 cours parce qu'il y avait une liste d'attente et qu'il y avait beaucoup de demandes pour ce créneau. Donc déjà, il a fallu faire une croix sur ça, bon, temporairement, mais ça a été difficile de faire le deuil de ce rendez-vous hebdomadaire. Et puis se dire, ok, mais comment je vais faire ? Et puis très vite, je me suis dit, bah vas-y, ça, c'était l'époque où les lives Instagram ont popé de partout, tellement que quand t'arrivais sur Insta, t'avais 18 bulles de live
en cours,
tu disais, mais oh, au secours. Et en fait, j'ai commencé comme ça parce que je me suis dit déjà, je peux pas rester à rien faire chez moi. Mon copain, lui, il est en télétravail toute la journée. Qu'est-ce que je fais? À l'époque, j'avais encore un taf freelance pour mon ancienne boîte. J'étais coach en insertion professionnelle. Donc, je faisais beaucoup de préparation aux entretiens d'embauche, motivation. Donc, j'étais là, ok, si je veux bien m'occuper des autres, il faut aussi que je m'occupe de moi parce que sinon, je vais être au fond du trou. Et puis, j'ai commencé les lives Instagram sur donation. Et puis, en fait, je maîtrisais déjà l'outil Zoom puisque je l'utilisais pour le coaching en insertion pro. Et je me suis dit, bon, bah, je vais commencer à voir comment ça prend, sonder mes élèves, voir un peu ce qui peut se passer. Et puis surtout, moi je suis partenaire Urban Sports Club depuis mes débuts ou presque. Donc c'est un réseau, je sais pas trop comment on peut les définir, mais en gros ils groupent en fait plein d'activités sportives et autres. Donc moi je suis partenaire avec eux sur une région. Maintenant ils sont sur toute la France, enfin sur plusieurs villes de France, et donc en fait les personnes qui sont abonnées chez eux payent un abonnement mensuel et après peuvent accéder à plein d'activités dont les miennes. Donc j'avais une grosse communauté via Urban, et eux très vite ont réagi, en fait très vite ont mis en place un outil permettant de programmer des cours en visio, de gérer les réservations, de gérer la facturation, tout ça machin. Donc ça m'a aidé clairement à me dire ok, bon, il y a déjà ça. Et puis, j'ai investi dans du matériel. Ça, c'était pour moi indispensable. J'ai la chance d'avoir un compagnon très à la pointe de tout ce qui est high-tech, tout ça. Donc, qui m'a beaucoup aidée pour acheter du matériel qualitatif. Un micro, ça me paraissait nécessaire,
ouais,
indispensable.
Tu peux nous en parler, du coup, du matériel que t'as, en gros, que tu utilises aujourd'hui?
Alors, j'ai commencé tout simplement avec un micro-cravate de la marque Rode, qui était une référence, pour le coup. Je voulais pas d'EarPods. Enfin, personnellement, pour en avoir testé, moi, ça tombe tout le temps. Donc, je ne me voyais pas du tout utiliser ça. Et puis, c'est pas fait pour, à mon sens. Je critique pas les gens qui font ça, mais moi, je trouvais que c'était pas, voilà, enfin, c'est pas fait pour ça. Donc, je préférais vraiment un vrai micro. Après, j'ai tâtonné pour avoir un son optimum quand j'entends les élèves qui me parlent et tout. Enfin, tu tritures ton ordinateur, tu fais des tests et des tests. Et au début, j'ai filmé avec mon PC, avec mon téléphone, pardon. J'ai un téléphone qui fait de la 4K, enfin, qui fait une super qualité d'image, donc c'était top. J'avais récupéré le trépied de mon appareil photo et tout. Enfin, je suis passée par des modes aussi, en mode blog de yoga pour caler le téléphone. Enfin, les lives Instagram où tu sais pas ce que tu fais parce que non, tu vas pas te filmer en selfie, tu te filmes dans l'autre sens, donc tu vois pas ce qui se passe. Tu sais pas quand est-ce que le live Insta se termine, t'es dans ta tête et tout. Enfin, je suis passée par des phases de stress énormes. Le cadrage, trouver le mur dans la maison qui est blanc, qu'on déplace le meuble au quotidien, qu'on remet en place. Et puis après, j'ai investi dans une webcam, une vraie webcam avec un trépied, donc pour ne plus avoir à me servir de mon téléphone et pour vraiment tout gérer par le PC. J'ai upgradé mon micro en achetant en plus un fil avec vraiment un tout petit micro que je peux clipper avec une petite mousse parce que c'est encore plus qualitatif en termes de son. Et le dernier truc, c'est un cadeau de mon compagnon, c'est un spot en fait, une Airlight, pour pouvoir avoir une belle lumière, parce qu'en fait, en fonction de la journée, de l'heure de la journée, forcément, ta luminosité, c'est pas la même dans l'appartement, si tu fais tes cours le soir, le matin, donc pour essayer d'avoir un truc assez joli, pas trop jaune ou pas trop gris. Voilà, mais sinon, je suis restée assez basique, micro, webcam
et de la lumière. Webcam, t'as pris quoi, Logitech ou...
J'ai une Logitech,
ouais. Bah écoute, ouais. Ce qu'on fera éventuellement, c'est qu'on partagera les références dans les notes de l'épisode, parce qu'effectivement, j'ai souvent des questions sur le matériel, et comme tu l'as très justement dit, en plus, je pense que ce qui est valable pour l'un n'est pas forcément, ou l'une n'est pas forcément valable pour l'autre. Il faut tester, ça dépend d'où est-ce qu'on enregistre, ça dépend de notre pratique, ça dépend de voilà ce qu'on a aussi déjà à disposition. Donc je trouve que c'est bien voilà quand il y a un peu le choix aussi, que chacun puisse se faire une idée. Donc, c'est super intéressant. Et du coup, après, en termes de pratique online...
Ah oui, alors, du coup, comment j'ai fait? Donc j'avais quelques cours, en effet, je rebondis sur ça. Et j'ai commencé à tester plein de créneaux. Mais j'ai vraiment testé plein de choses. Le matin, le midi, le soir, le week-end. J'ai fait des sondages auprès de mes élèves pour voir un peu ce qui les intéressait. J'ai essayé de reproduire un petit peu le planning que j'avais avant.
On aime les sondages. Le studio...
Le studio pour lequel je travaillais, pareil, a maintenu le même planning. Donc ça, c'était chouette. On l'a un petit peu adapté, forcément. Mais on a globalement gardé les mêmes choses. Et en fait, j'ai fait que ça, que de l'adaptation. Si au bout... Alors, je me laissais le temps. On ne peut pas considérer que si au bout de 3 semaines, il n'y a personne, c'est un flop. Pas du tout. Parfois, il faut attendre 2 mois, voire 3 mois. Au début, clairement, j'ai fait une offre beaucoup trop large. Je me mettais tellement de pression que je pense que je donnais presque 15 heures de cours par semaine. Mmh. Donc, c'est très épuisant. Ça a été aussi l'époque pour moi des cours privés. Mmh. J'ai eu des élèves que j'ai suivis en privé. Donc, ça, c'était très chouette. J'ai aussi adapté mon offre parce que j'avais des clients en entreprise. Donc, par exemple, j'avais un cours en présentiel pour 15 personnes le mardi midi. C'est devenu un cours en visio pour 30 personnes Europe. Donc, le cours est devenu en anglais. Donc, double challenge. Visio plus en anglais. Donc, heureusement, j'avais fait mon teacher training en anglais. Donc, c'était cool. Mais ça m'a sorti énormément de ma zone de confort. Mm. Parce que les premiers temps, que ce soit en live Instagram ou sur Zoom, bah, tu te vois. Enfin, surtout sur Zoom, tu te vois, alors qu'en cours, en studio, tu ne te vois pas. Et donc là, tu vois tous tes défauts, tu réécoutes l'enregistrement derrière, t'es hyper critique envers toi-même. Et puis en fait, je me disais, mais vas-y, ça t'apprend en fait. Et puis tu fais du théâtre à côté, tu fais de la scène, donc ça change pas des masses. Prends-le comme, comme une perf. Je me rassurais vraiment comme ça en me disant, mais... ça va, tant que les élèves y reviennent, ils y sont heureux, on s'en fout que t'es bugué, on s'en fout que t'es fait deux fois le même côté. Ça m'arrive rarement, mais en tout cas, voilà. Enfin, là, les gens, ils ont besoin qu'on prenne soin d'eux. Toi, tu t'as envie qu'on prenne soin de toi aussi. Bon, bah voilà, je mets en place des choses. Tu fais évoluer en termes de matériel, tu fais évoluer en termes de plein de choses. Et puis après, c'est devenu un planning récurrent. C'est-à-dire que même quand on a réouvert les studios l'été dernier, j'ai gardé quand même une offre en ligne parce que le truc archi cool, c'est que ma clientèle exclusivement parisienne est devenue une clientèle nationale, voire internationale. J'ai des élèves en Belgique maintenant, par exemple.
Et oui, au-delà des frontières, grâce au yoga en ligne.
Tout à fait. Ouais. J'ai mis mes parents au yoga. Mmh. Mes parents se sont mis chacun de leur côté au yin yoga les dimanches matins, par exemple. Donc ça, c'était hyper cool de pouvoir leur faire voir ce que je faisais.
Ouais, enseigner à ses proches.
Donc ma mère est devenue une adepte. Ouais. Donc ça, c'était cool. Et puis en fait, tu te dis que de toute façon, c'est parti pour durer. Il faut s'adapter. Alors forcément, c'est une organisation au quotidien. Ça veut dire que bah, je travaille dans la même pièce que mon compagnon qui est en télétravail. Donc c'est respecter les temps où moi, je suis en ligne et tout. Après, bah, je m'isole dans une autre pièce pour que lui ait du temps tranquille. Donc forcément, ça chamboule tout, mais... je dirais que la bascule s'est bien passée pour moi. Ça a été un super truc. Ça m'a permis voilà, de pouvoir avoir une clientèle qui s'élargit. Ça m'a permis aussi de pouvoir proposer une offre un peu plus dense. Parce que quand tu es que sur du présentiel, bah, faut trouver les lieux où exercer. Faut trouver les studios qui sont parfois saturés, qui ont déjà leur panel de profs. Les salles à louer, des fois, ça coûte une blinde. Donc, tu peux pas forcément toujours dire, bah, tiens, je loue une salle et je me donne le temps. Ouais. Le plein air, c'est accessible quelques mois dans l'année quand tu es en région parisienne. Donc en fait, moi, je l'ai vraiment vu comme un tremplin. Et aujourd'hui, les studios peuvent réouvrir, ça change rien, quoi. Je remets des cours en présentiel, mais je garde trois quarts de mes cours en visio parce que les gens aussi ont évolué de leur côté. Ils ont adapté leur quotidien, ils ont adapté leur mode de vie avec le télétravail. Donc... le fait de pouvoir prendre un cours entre 12h30 et 13h30 sans avoir à aller au studio, revenir, éventuellement devoir prendre une douche, manger, machin, c'était quand même... on leur donne une heure de cours, mais autour, il y a toute une partie logistique qui était non négligeable. Là, je sais que les filles qui prennent les cours le midi, elles se disent « Ok, j'ai une heure et demie de pause, bah du coup, il me reste encore 30 minutes pour pouvoir manger, tranquille. Je suis pas en train de courir, est-ce que je vais louper mon métro ?» Et en fait, on ne pense pas toujours à ça, mais ça a été des gros avantages pour les élèves aussi, en fait.
Exactement. C'est, t'es une bonne ambassadrice du yoga en ligne, Juliette. Merci. Merci pour tout
ça. Non, de rien.
Mais comme tu le dis très justement, c'est bon pour les profs, mais c'est aussi bon pour les élèves et ça correspond à nos nouveaux modes de vie. Qui c'est cette réalité maintenant et enfin c'était déjà le cas mais ça s'amplifie et du coup bah avoir le temps maintenant à la fois de travailler et en même temps de prendre un petit moment pour soi dans la journée grâce au online, c'est quand même hyper bien pour tout le monde quoi.
Ah bah moi je sais que j'ai des élèves, j'ai trois cours le matin, quatre parce qu'il y a le samedi, mais j'ai surtout des cours le lundi, mercredi et vendredi entre qui commencent vers 7h45-8h. Et au début, j'étais un peu dubitative. Et en fait, bah, j'ai plein d'élèves qui étaient plutôt du soir. Et maintenant, qui se disent, mais en fait, c'est archi cool parce que je me réveille tranquillement. Bon, c'est des cours qui sont assez doux. C'est soit du yin, soit du slow vinyasa. Et, Tu remarqueras que je suis quand même une commerciale, donc je fais quand même ma pub. Et en fait, ils se sont rendus compte que le matin, c'était aussi possible, sans tout bouleverser, sans devoir se lever aux aurores, sans devoir aller à l'autre bout de la ville, et que c'est cool de commencer sa matinée avec du yoga. T'es pas obligé de t'habiller, si tu veux rester en pyjama, tu restes en pyjama, si tu veux tomber de ton lit 10 minutes avant d'allumer ta webcam, ou même pas de l'allumer. Donc en fait, pour certains, ça a révolutionné aussi leur consommation du yoga. Après, je sais très bien que j'ai des élèves que j'ai perdu de vue temporairement jusqu'à ce que là, je leur dise « Vas-y, ramenez vos tapis au jardin des Tuileries parce que eux, la visio n'est pas possible parce qu'ils n'ont pas la place chez eux.
Ouais. »
Ce qui est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte. Il y a quand même des gens qui vivent dans des appartements tellement petits que c'est pas possible. Donc, je les vois ponctuellement quand ils sont en week-end dans leur famille ou autre. Mais c'est la réalité. Il y a quand même un pourcentage de personnes qui soit n'ont pas envie, soit ne peuvent vraiment pas. Bon, pour le coup, c'est un peu dommage parce que là, ils se privent malheureusement d'une discipline qu'ils aiment beaucoup. Mais bon, c'est pour ça que je me dis que le online ne remplace pas le présentiel.
Exactement,
c'est un très bon complément, c'est une très bonne alternative. Mais c'est vrai que là, pour revenir de deux retraites de yoga avec des filles, c'était... Et d'ailleurs, j'ai eu un contre-coup quand je suis rentrée. Parce que tu donnes des cours déjà où t'es pas timé, ça dure 1h30, ça peut durer 2 heures, on peut improviser un workshop, on peut improviser un asana lab, tu peux ajuster tes élèves. C'est con, mais tu peux donner un conseil où tout de suite les autres vont pouvoir regarder et voir comment faire. Parce que je les vois des fois à la webcam, quand j'ajuste quelqu'un à la voix, je vois des têtes qui se lèvent, genre, putain, elle a mis sa webcam, je vais regarder et tout. Tu sens la fébrilité. Donc, et même moi, tu n'accompagnes pas tes élèves de la même façon, forcément. Il y a des gens qui mettent pas leur webcam, ou il y a des gens, c'est très mal cadré parce qu'ils n'ont pas la place ou autre. Bon, le présentiel, c'est irremplaçable.
Après, le truc, c'est d'avoir le choix, justement, de mettre le curseur où on veut entre le online et le présentiel. Et c'est ça, la beauté de faire le pas, d'aller en ligne. C'est en fait, après, c'est l'opportunité, en fait, de pouvoir gérer un mix de présentiel et de online comme on le souhaite, en fonction de nos envies, de nos besoins, de ce que veulent nos élèves aussi. Et puis de la vie qu'on veut avoir aussi, si on veut une vie plus nomade ou selon la liberté géographique ou autre qu'on veut avoir. Mais voilà, c'est pas, l'un n'empêche pas l'autre, entre guillemets. Alors, sauf par les temps qui courent, évidemment, c'est plus compliqué. Mais on n'est pas en train de construire un business pour aujourd'hui seulement. On construit une activité de prof de yoga en regardant sur le long terme. Et le fait, voilà, de pouvoir se dire ensuite, je pourrais choisir si je fais 80-20 ou 50-50. Enfin, voilà, c'est super. Et chaque forme, que ce soit présentielle ou en ligne, va offrir du coup derrière ses avantages.
Typiquement, je cherchais désespérément un lieu, un studio, une salle, n'importe quoi pour enseigner le yin. Parce que j'étais formée au yin. Et en fait, le studio pour lequel je travaillais, il n'y avait pas de créneau pour le yin. La salle dans laquelle je travaille, il n'y a que des blocs. Donc, il n'y a même pas des coussins, des plaids. Enfin, s'il y a des plaids. Et en fait, je me disais, là, ça y est, je peux faire du yin. Alors forcément, tu l'adaptes parce que les gens n'ont pas forcément des sangles, n'ont pas forcément tout. Mais tout le monde a au moins un coussin ou deux qui traînent.
Oui.
Et un plaid. Et donc après, ça m'a forcé pareil à être créative et à dire, ok, qu'est-ce que je peux proposer en yin ? Et ça m'a aidé à enseigner le yin.
Ouais,
parce qu'avant, c'était
exemple,
réservé à des workshops. J'arrivais à faire des workshops ponctuellement autour du yin, où je me disais, bon, ok, j'ai préparé ma séquence pour qu'il n'y ait pas besoin de trop de matériel. Parce que tu peux demander aux élèves de venir avec un plaid.
Il y a plus de contraintes, en présentiel.
Voilà,
du coup, ouais.
C'est ça. Exactement. Et là, il n'y a plus de contraintes. Donc tu fais découvrir une discipline que jusqu'à maintenant t'as dû un peu garder pour toi parce que faute de lieu, faute de matériel, donc ça c'était génial. Et puis pareil, j'ai créé un yin-yang où pendant un cours on peut mélanger et de la méditation et du yin et du vinyasa. Ça c'est des prises de risques que je me suis autorisée grâce à la visio, que j'aurais pas faites en présentiel, parce que mettre en place un nouveau créneau en présentiel, les débuts sont compliqués. En visio, c'est con, mais tu prends peu de risques. Une heure avant ton cours, il n'y a pas d'inscrit. Bon, c'est pas grave. Ta journée, elle continue,
chose,
en fait.
Quoi.
C'est
ouais,
pas comme
c'est
si
clair.
Tu arrivais sur place et que tu découvres qu'en fait, il n'y a personne et tout. Donc, ça a été des contraintes. C'est toute une organisation. Mais en vrai, comme tu l'as dit, en plus, le côté nomade, là, entre mes deux retraites de yoga, j'ai dit, non, je rentre pas à la maison. Je vais en Normandie chez mes parents 3 jours. Et donc, j'ai maintenu mes cours.
Oui, c'est bah oui, la liberté de pouvoir donner ses cours où on est à l'instant T, quoi. En fait,
exactement. Hein. Bon, et ça, c'était trop chouette.
Un décalage horaire trop important, mais en ce moment, oui, c'est pas trop le cas.
Non, en ce moment, c'est pas trop le cas. Et c'était trop cool de dire, bah, ça s'adapte à mes 3 jours de congé, entre guillemets. Je peux être ailleurs parce que justement, le matériel n'est pas non plus trop conséquent. C'est mon PC, ma petite webcam. Donc. Non, ça a que des avantages. Alors,
On a bien saisi, effectivement. Hein, tu nous as bien mis, on a bien saisi tous les avantages, effectivement, du yoga en ligne. Après, moi, ce que je retiens aussi, parce que j'aime bien quand même, c'est une partie importante à retenir, parce que des fois, j'ai un peu de retour, comme ouais, mais est-ce que ça va être facile? Bah, je pense que rien n'est facile. Que oui, ça demande de sortir de sa zone de confort. Que oui, ça va demander, et tu l'as bien mis en avant, du test and learn. Que oui, il faut un petit peu de persévérance parce que moi, quand j'entends, bah ouais, mais j'ai lancé un cours, il n'y avait personne, donc voilà, bah, et tu l'as très justement dit, bah, faut essayer parfois sur 2 mois, 3 mois avant que ça prenne. Et voilà, et ça, je trouve que c'est quand même important d'en avoir conscience. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des raccourcis, il y a des méthodes, il y a des stratégies, il y a des bonnes choses à faire, il y a, voilà, et tout ça, ça peut s'apprendre. Moi, je sais que je l'apprends au quotidien, voilà, à mes élèves, à mes coachés ou autres, c'est OK, mais il n'en demeure pas moins que, voilà, il n'y a pas, encore une fois, de succès garanti du jour au lendemain. Ça demande du travail, ça demande de shifter aussi un petit peu en termes de, voilà, de mindset, ça demande de tester, ça, il n'y a pas un retour forcément immédiat, mais voilà, c'est normal et en même temps, ça prend le temps, mais il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas, quoi.
Bah, j'ajoute juste 2 petits trucs, 2 petites choses par rapport à ça. Il m'arrive encore sur certains créneaux qui sont là depuis plus de 6 mois en visio, il y a des jours où il n'y a que 2 ou 3 personnes au cours, alors que d'habitude c'est le triple. Et je me dis, je me remets pas en question. Oui, ouais. Au début, je me remettais en question. Je me disais, le créneau, il marche plus. Hein, bah voilà, bah super. Non, en fait, c'est juste que ce jour-là, il y a 4 élèves sur 7 qui ont eu une réunion. En fait, ouais, c'est tout. Et ouais, la fois d'après, ils sont là. C'est pas grave. Ça me donne aussi une liberté de pouvoir dire, bah aujourd'hui, je me sens pas très bien. J'avais 2 personnes qui avaient réservé. Je leur envoie un petit message. Je leur explique. Éventuellement, je leur fais un petit cadeau d'un replay pour dédommager. Si voilà, c'est aussi cette flexibilité-là mentale, parce que t'es beaucoup plus indépendant. Et il y a un autre truc qui est un gros test and learn où là j'ai morflé, c'est physiquement. Parce qu'au début, je faisais tous mes cours intégralement avec les élèves. C'est-à-dire que, alors déjà, je te dis pas l'essoufflement avec le micro, le truc, c'est un enfer.
Ouais, donc je suis revenue à mes débuts. Exact, parce que moi je vois beaucoup de profs qui ont évolué par rapport à ça, mais c'est hyper intéressant de le dire, ouais.
C'est en fait au début je me suis retrouvée avec une sciatique hein, parce que comme on sortait pas beaucoup de chez nous, moi je sortais de chez moi juste pour faire mes courses, donc je faisais même pas l'heure de marche autorisée. J'ai eu des gros problèmes de dos alors qu'ils sont passés tout seuls heureusement, mais je faisais tout et j'arrivais à la fin de la semaine en larmes parce que physiquement j'en pouvais plus, moralement j'avais trop tiré sur la corde du jour au lendemain et j'ai dû adapter. Et encore aujourd'hui, je le dis aux profs qui nous écoutent, je me fais parfois violence parce que il y a des cours où je sens que j'y arrive pas et je suis encore en train de m'excuser auprès de mes élèves et dire là je suis désolée, je peux pas tout faire avec vous, je suis pas très en forme. Et en fait je me dis mais j'ai le droit, enfin tout comme eux, si pendant le cours ils ont besoin de faire une pause, ils font une pause. Donc j'ai appris à réduire un peu mon temps de démonstration.
Oui, à privilégier
l'évidence. Tout à fait, quitte au début du cours à dire alors aujourd'hui j'introduis ça, ça et ça comme nouvelle posture. Voilà à quoi ça ressemble. On aura l'occasion de revoir au fur et à mesure dans la pratique, mais je vous montre 2-3 points clés. Et après, essayez au contraire de vous concentrer sur ma voix. Faites abstraction de l'écran et soyez dans vos sensations. Donc ça m'a énormément appris à utiliser un autre phrasé, à être plus descriptive, sans trop parler non plus. Il faut laisser aussi des temps, parce que parfois la coordination nous joue des tours. Donc forcément, elle a dit quoi, elle a dit le bras droit, le bras gauche et tout. La caméra, pour peu que ce soit d'une certaine façon, les gens ils pensent que t'es en miroir alors que non. Ils disent ouais, mais là t'es sur quelle jambe? Mais t'occupes, je te dis, la jambe droite et tout, t'occupes et tout.
De les habituer et aussi à la guidance orale. Ouais.
Exactement, de les habituer à la guidance orale. Et aussi, moi, à me dire écoute, voilà, je fais une partie du cours. Là, il y a 3 salutations au soleil, j'en fais une. Et au contraire, après les 2 autres, je préfère être collée à mon écran pour pouvoir dire ça, le chaturanga, hop, là il y a 4 chaturanga un peu foireux. On fait une pause, on fait un tuto de chaturanga et on repart. Et en fait, ça a été une autre façon d'enseigner aussi, d'accompagner les élèves différemment, de rendre le truc participatif aussi. Tu vois, Du coup, je digresse beaucoup, mais je pense que c'est intéressant pour
non,
les
mais
profs.
Mais tu nous as dit que tu étais bavarde, donc.
Oui. Moi, j'enseigne.
Tant pis, je vais
faire
sauter des questions. Hein. C'est pas...
Ah, d'accord, ok. Moi, non, mais je pense que c'est important. C'est important parce que, tu vois, par exemple. Alors moi je maîtrise pas les handstands, tout ce qui est posture sur la tête et tout, c'est très timide pour moi parce que j'ai peur, parce que je les bosse pas toute seule, parce que pour plein de choses. Mais je me suis dit je vais pas priver mes élèves de ça sous prétexte que moi je les maîtrise pas. Donc récemment je suis intervenue comme prof dans un teacher training, donc ça c'est le nouveau truc qui est archi cool. Et je leur ai dit mais n'ayez pas peur d'enseigner des choses que vous-même vous ne savez pas faire, parce qu'encore une fois c'est pas la destination qui compte, c'est le chemin. On peut très bien expliquer aux élèves comment appréhender un shirshasana sans devoir leur montrer nous-mêmes avec notre corps. Pour ça, Google est mon ami. Donc très souvent sur Zoom, en fin de cours, je fais un partage d'écran d'une posture que j'ai choisie. Ils ont bien compris pendant les 45 premières minutes qu'on a travaillé le corps pour préparer cette posture. Voilà le résultat final. Je joue de mon humour pour leur montrer mon évolution sur cette posture. J'ai dit voilà, moi j'en suis. Vous aujourd'hui, vous allez essayer d'aller dans cette direction et ça donne ce que ça donne. Et en fait, il y a aussi un truc qui est décomplexant que je veux vraiment mettre en avant, où je dis voilà, on part tous de zéro, arrêtez de regarder le résultat sur Instagram. La nana, il y a moyen que ça fait une heure qu'elle est en train de faire des photos, qu'elle a fait 50 tirs et qu'elle a pris une photo sur 50. Parce que ses cheveux se sont pas mis comme il fallait, parce qu'elle a tremblé, parce qu'elle a pas rentré son ventre, parce que ceci, parce que cela. Donc, arrêtez de vous foutre la pression. Et en fait, ça donne des trucs archi cool parce que du coup, j'ai une liste aujourd'hui de cours, de postures un peu tordues, un peu difficiles, qui reviennent au programme régulièrement, qui nous permettent de voir les progrès. Donc moi, je vois comment ça évolue chez les élèves. Et surtout, un truc que j'adore et qu'il n'y avait pas beaucoup en présentiel, c'est que maintenant, quand je montre une posture avec des tips et tout, je dis, est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui la maîtrise déjà ou presque et qui veut nous partager des astuces de progression ? Et donc, il y a toujours une petite voix timide qui lève la main et qui finit par dire, moi, j'ai appris à le faire comme ça, là, ceci, cela. Et en fait, les élèves apprécient énormément parce que même si moi, je joue franc jeu avec eux en leur montrant que j'y arrive pas, ils disent toujours, ouais, mais bon, c'est la prof, tu vois. Alors que là, quand ils voient qu'ils sont dans le même bateau que d'autres élèves, il y a un truc un peu solidaire qui fait que même s'ils sont chacun chez eux, ils sont un peu dans la progression. Et à la fin, quand tout le monde a le sourire, quand je dis « bon, ça y est, c'est fini, vous avez bien bossé, bravo à tous, maintenant on peut se relaxer », tu te dis « ok, il y a quand même une énergie qui s'est construite.
Ouais, »
Et on a tous galéré avec cette posture et au final, on a tous fait de notre mieux et on se souvient « ok, donc là, sur le corbeau, je me suis arrêtée à un pied. Bon, dans un mois, on refait un point et on voit les progrès. » Et ça, c'est un truc que j'avais pas forcément en présentiel et que maintenant j'ai en visio et que je chéris énormément.
C'est super intéressant, effectivement, en tout cas, parce que ça permet de montrer aussi à d'autres profs de yoga comment on peut construire des cours en ligne, de s'autoriser aussi peut-être des libertés, de la nouveauté, de la créativité, et puis de montrer aussi comment on peut malgré tout réussir à créer un effet de groupe, à ce que les gens sentent qu'ils ont participé à une expérience commune et puis du coup soient contents de ce rendez-vous régulier, un petit peu de sentiment d'appartenir à une communauté. Donc c'était intéressant de le préciser. Et alors maintenant, j'aimerais qu'on aborde un sujet forcément que j'adore, puisque tu as récemment lancé, Juliette, ton premier programme en ligne.
Oui.
Et comme tout le monde le sait, c'est l'objet de mon programme Yogi Bizline, d'avoir une offre de yoga conséquente en ligne. Et donc, j'aimerais qu'on décortique un petit peu avec toi les coulisses de ce projet. Alors déjà, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est que ce programme et ce qu'on y trouve dedans ?
Bien sûr. Alors, il s'appelle 28 jours de bien-être autour de yoga. Autour du yoga, pardon. La honte, c'est le nom de mon programme. Je commence à être fatiguée, j'ai beaucoup parlé. Et donc en fait, c'est 28 vidéos de 10 minutes en moyenne pour pouvoir créer une routine quotidienne autour du yoga. Donc qu'est-ce qui se cache dans ces 28 vidéos ? Il va se cacher du vinyasa, du yin, mais aussi et surtout de la méditation, des mudras, des pranayamas, du yoga sur chaise, parce qu'en fait, je vois encore trop souvent les gens qui ont une image d'un yoga où on passe forcément une heure sur son tapis, à se contorsionner, à devoir être souple, à devoir ceci, à devoir cela. Alors qu'en fait, si on regarde un petit peu auprès des 8 branches du yoga, bah les asanas, c'est une branche, mais en fait, les pranayamas ont leur place, la méditation a sa place, et ainsi de suite. Et en fait, moi, je mets ça de plus en plus en place dans mes cours, et je me suis dit, bah, techniquement, quelqu'un qui se lance dans le yoga, mais qui n'a pas forcément l'énergie physique, ou... Enfin, pour plein de raisons, de faire des cours d'une heure, c'est mission impossible. Bah, commencer par un petit format qui change chaque jour, bah, permet déjà de se rendre compte qu'il n'y a pas qu'un seul type de yoga. Et que surtout, bah, y a plein de choses qui sont complémentaires. Et donc, j'ai voulu voilà, proposer un programme qui permettait bah, de faire un Shavasana actif un jour, alors que le lendemain, on a fait une session plutôt gainage abdominal, alors qu'après, c'était plutôt tout ça.
Donc voilà ce qu'il y a dans le programme. C'est un programme qui s'adresse plutôt aux débutants finalement, enfin aux personnes qui sont en train de découvrir le yoga ou en tout cas peut-être aux débutants dans le sens qui connaissent la partie peut-être un peu plus posturale et moins le reste aussi. C'est un peu une invitation à découvrir. C'est quoi la promesse en fait de ton programme, l'objectif, à quel objectif tu veux répondre avec ce programme?
Alors... moi, l'objectif, c'était surtout de montrer qu'il n'y a pas besoin de consacrer des heures entières. Qu'on peut, en fait, intégrer du yoga régulièrement. Parce que souvent, les gens se blâment de ne pas être réguliers. S'ils ont loupé leur cours dans la semaine, ça y est, c'est la fin du monde. Et en fait, il y a plein de façons d'être yoga, de faire du yoga. Et c'était ça que je voulais montrer. Donc, c'est vrai que ça a attiré beaucoup de débutants. Mais ça a attiré aussi beaucoup d'élèves qui, en vrai, bah, peuvent pas toujours prendre les cours comme ils veulent, n'ont pas le temps, et justement se disent bah, « je me verrai pas faire une heure de méditation, je ne connais pas les mudras, comment j'y ai accès ?» Bah, là, par exemple, bah, sur une petite vidéo, j'ai accès à un mudra, et pour autant, je peux aussi m'enchaîner une deuxième vidéo qui est focus sur les hanches. J'ai souvent des élèves qui me disent « mais moi, j'aimerais bien bosser mon grand écart, mais je suis hyper raide. » Bon, bah, y a plusieurs vidéos qui sont dédiées justement aux hanches. Donc, le programme, il peut être abordé comme un petit calendrier de l'Avent quotidien. Ouais. Alors, je dis ça parce que c'est des élèves qui l'ont appelé comme ça. Un petit calendrier de l'Avent avec chaque jour une surprise. Et en fait, à terme, mon objectif, c'était que ça soit une petite bibliothèque de ressources où, comme il est accessible à vie, en illimité, les gens puissent se dire bah, « j'ai bien aimé ces vidéos-là, donc je me fais un peu mon petit panel de vidéos et de temps en temps, je repioche. Bah, tiens, là, j'ai un peu mal au dos, du coup, je reprends cette vidéo. » Ça permet d'avoir des choses ciblées qui peuvent se combiner entre elles. Limite, les gens peuvent se faire une session d'une heure en combinant des vidéos successivement. Donc, c'est vrai que les débutants, ça en a séduit beaucoup, mais j'ai aussi voilà, des élèves réguliers qui... on en parle beaucoup de tout ce qui est Miracle Morning, tu sais, tout ce qui est routine, bien-être et tout, sauf que c'est toujours très consommateur de temps et d'énergie. Ça ajoute encore une charge mentale, une pression. Bah, moi, je ne vous promets pas grand-chose, à part qu'en 10 minutes, on peut faire suffisamment pour mettre la journée en route d'une façon agréable ou la terminer aussi, parce qu'il y en a qui choisissent plutôt de le faire le soir, et sans s'ajouter voilà, de contraintes ou de culpabilité. Et si on loupe un jour, bah, c'est pas grave. Parce que on peut passer 2 jours et puis rattraper. Enfin, là, pour le coup, j'ai plus de recul parce que les premières ont terminé leur mois de pratique. Et c'est un peu ça, il y a ceux qu'on fait du quotidien, il y a ceux qu'on fait un jour sur deux, il y a ceux qu'on fait plusieurs à la suite.
Est-ce que tu interviens dans ce programme ou est-ce qu'il est autonome il est autonome, il a ses vidéos, etc. Ou est-ce qu'il y a des choses que tu mets à jour, que tu vas changer? Et est-ce que tu interviens, toi, par exemple, auprès des gens qui achètent ton programme dans un groupe privé ou autre? Ou est-ce que c'est vraiment 100% autonome?
Non, il y a un groupe privé Facebook qui permet justement d'échanger et j'ai eu quelques élèves assez actifs qui quotidiennement faisaient un retour sur la séance qui m'a permis aussi de me rendre compte, par exemple sur une vidéo il y a un bug. En gros, à un moment je décris une main et en fait elle n'est pas dans le bon sens, donc les gens s'attendent à ce que je parle de l'auriculaire et je suis en train de parler du pouce, enfin c'est tout bête, mais tu vois, il y a quelque chose que je peux modifier comme ça. Et ça m'a aussi permis voilà, bah, d'avoir des retours. Et puis, il y a eu de l'entraide, il y a eu du soutien, il y a eu des pertes de motivation qui sont remontées parce qu'il y en a qui ont dit « mais non, mais tu vas voir » et tout. Donc ça m'a beaucoup plu de voir qu'il y a une petite communauté qui s'est créée. Et puis moi, j'intervenais aussi parfois bah, parce que malgré toutes les explications, ça peut ne pas être clair. Donc j'ai fait des petites explications sur de la respiration, sur un placement, sur... une transition et autres.
À l'intérieur de ton groupe privé, du coup.
À l'intérieur du groupe, ouais, tout à fait. Okay, bah, je me faisais taguer Juliette sur cette vidéo, ouais, j'ai pas compris et tout.
Non, mais parce que c'est indispensable, en fait, aujourd'hui. C'est ce que j'essaye aussi, moi, d'enseigner. C'est que... En fait, c'est ce qu'on appelle de l'e-learning, hein, très clairement, ce type de programme. Et en fait, c'est de l'e-learning tutoré. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quand même quelqu'un qui est là, quelqu'un qui peut répondre aux questions. Et moi, c'est ce que je conseille aussi toujours, d'avoir un point de passage avec quelqu'un, en fait, donc avec le créateur du programme, idéalement, dans un groupe Facebook ou autre, quoi. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas non plus à 100% autonome. Mais voilà, au demeurant, le contenu est créé une fois et toi, tu es quand même présente en backup, quoi, en fait, pour tes élèves, quoi.
Je regarde quotidiennement les commentaires, je réponds quand je vois que c'est urgent, qu'il y a une vraie interrogation. J'essaye de batcher un peu forcément les réponses. Alors, il n'y a pas non plus des tonnes de personnes qui interviennent. Il y en a beaucoup qui sont spectatrices, mais c'est pas grave, en fait.
C'est okay,
Moi, je veux laisser un espèce d'espace un peu service après-vente où vous avez des questions, vous les posez là ou en privé. Mais restez pas, en fait, dans le doute s'il y a une vidéo qui est pas bien passée ou autre. Bah, venez me le dire, quoi, pour que le programme évolue si besoin, quoi.
Et concrètement, il y a des bonus. Concrètement, comment t'as géré l'élaboration de ton programme? Comment t'as géré ce projet, en fait? T'as commencé par quoi? T'as tout mis sur une feuille ou t'as tout de suite... par quoi t'as commencé? Comment tu l'as élaboré?
Alors, j'ai commencé par procrastiner de ouf.
Eh oui!
Parce que ça fait des mois que ça me trottait. Ça me trottait depuis longtemps. Tu m'en avais parlé. Je me disais ouais. Et en fait... plein de croyances limitantes encore dans me disant mais vas-y, je vais pas refaire des vidéos, je passe assez de temps en cours en visio, enfin plein de choses. Bref, au début j'ai perdu beaucoup de temps, ça aurait dû sortir depuis beaucoup plus longtemps. Et puis j'avais déjà une première ébauche d'un programme, rien à voir avec celui qui est sorti finalement. J'étais partie au début pour faire un programme de 7 vidéos d'une heure, donc rien à voir. Et puis en fait, au deuxième confinement, là au mois de novembre, j'ai fait un rendez-vous quotidien sur Instagram, 5 minutes pour s'étirer et respirer, gratuit. Et ça a pris, entre guillemets, j'ai eu des bons retours. Et en fait, je me suis dit, mais ça me plaît, encore une fois, de pouvoir montrer que le yoga, c'est pas une heure sur un tapis. Donc j'ai réfléchi, qu'est-ce que je peux proposer, tout ça, machin. Parce que techniquement, même si c'est mieux d'avoir un tapis, le programme, en soi, tu le fais par terre, ça peut passer. Comme c'est 10 minutes, tu passes pas 10 minutes à genoux ou en planche, par exemple. Ouais. Enfin, personne fait ça, je pense, en cours, mais quand même. Et donc, j'ai réfléchi. Et puis, en fait, je me suis dit, OK, j'avais en tête de le lancer le 1er février. Et je me disais, putain, 20 février, c'est un lundi, le 1er février, il y a 28 jours, 4 semaines. Et puis, j'avais moi-même été consommatrice d'un programme sur 28 jours. Mmh. Et je m'étais dit, putain, mais c'est trop bien comme format. Donc, je reprends cette idée. Donc, comme quoi, il faut s'inspirer de tout, même si on ne sait pas notre domaine d'activité. Et puis en fait, bah, j'ai commencé à noter, à me dire, ok, 28 vidéos, tain, c'est beaucoup quand même, 28 vidéos, 28 idées, il va falloir trouver. Puis je me suis dit, bah, il y a ça. Donc j'ai fait plein de tests, plein de trucs. Donc j'ai d'abord fait un gros Google Excel, un gros fichier Excel, avec 28 cases. Et puis j'ai commencé à noter des trucs, à me dire, ouais, ok, d'accord, tu vas faire un truc sur 28 jours, mais des fois, il y a des mois, il y a 31 jours. Et puis, je veux surtout pas que les gens se disent qu'il faut attendre le premier pour commencer. Faut surtout pas que les gens se disent qu'il faut commencer un lundi, parce que, pour le coup, mentalement, il y a eu cet effet-là. Il y a des gens qui m'ont dit, bah ouais, mais là, j'ai loupé le début. Mais je dis, mais non, vous le démarrez quand vous voulez. Ce sont vos 28 jours à partir de quand vous voulez. Donc, j'ai rajouté 3 bonus pour que ça fasse 31 vidéos, pour pouvoir faire un mois complet de yoga.
D'accord, ok.
Donc, j'avais tout sur le papier. Et puis après, bah, j'ai organisé des séances de tournage. Je vais grouper ces vidéos-là ensemble, ces vidéos-là ensemble, ces vidéos-là, en fonction de mon énergie aussi chaque jour, parce que bah, c'est du boulot. C'est peut-être 10 minutes de vidéo, mais le tournage, il dure beaucoup plus longtemps. Et j'ai été aidée par mon compagnon qui, lui, a un gros background en cinéma et en 3D, donc dans tout ça. Donc, qui s'est occupé
d'éditer et de monter,
tout à fait. Okay. Voilà, donc on a travaillé en collaboration sur ça. Et c'est lui qui m'a dit, non, par contre, 1er février, tu t'enflammes, on n'aura pas tout fait. Donc, on va se laisser le mois de février pour peaufiner les choses, pour communiquer, parce que ça, c'est un truc où... Bah, heureusement que j'ai ton podcast, hein, qui m'a aidé, hein, clairement, parce que Moi, j'allais lancer le truc, ouais. J'allais le lancer genre, hey, vous m'attendiez, non? Vous ça. M'attendiez, n'est-ce pas? Vous attendiez un programme. Et en fait, il m'a dit, mais tu sais, ton programme, les gens vont pas se dire, ah, le messie. Donc, il faut que tu teases, il faut que tu en parles aux gens,
mais
il faut que tu éveilles leur curiosité.
Il écoute mes podcasts ouais. aussi.
Non, mais pour le coup, il pourrait aider d'autres profs de yoga, mais attention. Non, mais
enfin,
pour le coup, tu
cas,
vois, il va
aider. Exactement, ouais, la phase de pour promouvoir son offre et puis réchauffer son audience en fait hein,
et c'est difficile.
Les coulisses, c'est indispensable.
Et c'est pas évident parce que du coup tu dis ok, donc maintenant il faut que je m'occupe de Podia machin. Bon, entre temps j'ai refait mon site internet, j'ai une super webmaster qui est au top et tout, qui s'est d'ailleurs mise au yoga avec le programme, donc il y a eu un espèce d'échange de procédés super cool et donc il y a eu cette phase de lancement et puis en fait bah en tout je pense que ça m'a pris en tout entre les premiers brainstorming et le lancement, il s'est passé 2 mois.
Ouais.
Pour un deux mois et demi. Tu vois.
Avec les petites vidéos, ça me paraît correct. Ouais.
Même si, en vrai, j'ai dit je procrastinais parce que l'idée était là depuis longtemps.
Oui,
parce
ça,
que.
Avant, mais à partir du moment où tu t'y es mis, globalement,
ouais.
deux mois et demi. Et en étant, ouais. En ayant des cours à côté, c'était pas un focus H24.
En ayant des cours à côté, en toute franchise, en passant parfois une semaine sans toucher au programme. Parce que pas le temps, parce que pas l'énergie, parce que flemme. Parce qu'en fait, quand t'es au moment de le lancer, tu dis oh non, je le fais plus. Oh non, et tout. J'ai eu des vidéos que j'ai voulu refaire parce que je revenais sur mes complexes physiques en me disant non, mais attends, qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Non, mais on voit ton bide. Ah, j'étais horrible. Puis après, je me suis dit bon, ça suffit. Stop. La vidéo, elle est top. Le son est top. L'enchaînement est top. On arrête.
Ouais.
Parce que. T'improvises quand même un peu, t'as beau avoir tout scripté, avoir tout préparé, la réalité est telle que faut se lancer. Alors il y a eu des loupés, hein, il y a eu des moments où je coupe la vidéo, c'était trop bien, oh, c'était super. Et là en fait le micro était débranché. Non, le micro s'était un petit peu dévissé, donc il n'y a plus de son.
Mais ça c'est
là,
des
en fait,
aléas classiques hein,
dis,
qu'il faut
ouais,
effectivement
c'est des aléas classiques.
Aussi dans le timing pour créer quelque chose. Hein.
C'est ça. Mais c'est le genre de truc, selon la journée que t'as passée, qui peuvent te plomber.
Ouais,
te dire, mais fais chier et tout, faut tout refaire, et tout. Mais en fait, je suis super contente parce que ça m'a encore une fois sorti de ma zone de confort. C'est une autre façon de proposer des choses. Je m'étais fixé un objectif de 50 préventes parce que j'ai fait un tarif de prévente une semaine avant la sortie officielle. Donc, j'avais fait un peu un système de liste d'attente pour pouvoir accéder au tarif, pour pouvoir accéder au programme avant le lancement le 1er mars, parce qu'il est sorti du coup le 1er mars. Et donc, commercial jusqu'au bout, je m'étais dit, vas-y, 50 programmes. Alors mon compagnon, pour le coup, il n'y a pas de connaissances commerciales, il me dit mais attends, mais sur quoi tu te bases? Je dis je sais pas, c'est comme ça, c'est 50 programmes et tout, je le sens, nanana et tout. Et en fait, j'en ai vendu 60 la première semaine. Donc on a fait péter le champagne, donc c'était trop cool. Et là, tu te dis ok, j'ai pas fait tout ça pour rien parce que t'as une trouille malade, parce que toi t'es à fond dans ton truc, tu sais que ton programme il est cool. T'as des doutes, tu te dis ça se trouve les gens vont trouver c'est nul, mais au fond de toi tu sais que t'as mis tes tripes, que t'as mis ton énergie, que tu es qui tu es en studio ou en visio, donc il n'y a pas de raison que ça ne prenne pas. Mais il faut aller trouver les gens, il faut leur dire « achète mon programme » ou « fais-moi confiance ». Et tu as quand même cette peur, ce syndrome de te dire « mais ça se trouve, il est super beau le programme, mais je l'ai fait pour personne, personne ne va en vouloir, tu vois ».
Et comment t'as
donc,
fait alors pour trouver les gens qui achètent?
Eh ben écoute, c'est ça qui est assez rigolo, c'est que c'est... J'ai une toute petite part de mes élèves récurrents, mais j'ai beaucoup de nouveaux. J'ai beaucoup de gens dans l'ombre sur Insta qui ont acheté le programme et qui de temps en temps se manifestent. Et là, je dis, ah, comme quoi, en fait, j'ai une communauté discrète, silencieuse. Parce que ma communauté Insta, on pourra peut-être en parler si on a le temps, elle est un peu yoga, mais elle est aussi un petit peu plus lifestyle, il y a le mannequinat, il y a aussi le fait que je partage un peu des bribes de vie, de la bonne humeur, de la joie. Donc les gens ne sont pas forcément là pour le yoga. Donc c'est vrai que je me disais, si je me base que sur mes élèves, je ne vais pas en vendre beaucoup. Enfin, ça ne va pas trop prendre parce qu'eux, ils n'ont pas forcément besoin de ça. Et en fait, c'est là où ça m'a permis de toucher une autre audience. Et le truc archi cool, c'est qu'il y a des gens qui ont commencé avec le programme et qui maintenant viennent en cours.
Ah bah oui, voilà, c'est ça.
Et ça, ouais, c'est archi
exactement.
Cool. Et des gens qui ont acheté le programme et qui ont débarqué en retraite de yoga, que je connaissais de ni d'Ève ni d'Adam, et qui ont débarqué là début mars et qui m'ont dit « moi j'ai acheté le programme, c'est pour ça que je viens ». Et là tu dis Wow, ok. Là, tu prends conscience qu'en
de
fait,
la magie du truc, ouais.
Tu fais du bien aux gens et c'est ça qui est gratifiant dans notre job. C'est que malgré le stress, malgré la casquette d'entrepreneur qui est une corvée, la compta, les trucs et tout, bah, au final, on contribue à un monde meilleur, on contribue à déstresser les gens qui en ce moment vivent tous une période de merde. Et je me suis dit, voilà, le programme, c'est mon petit bébé. Et puis, quand j'ai des retours, au bout de 28 jours que les gens se sont accrochés, je me dis, je suis fière de moi. Et en même temps, je me suis bougée. Et puis, ouais, c'est une nouvelle corde à mon arc de dire, bah, j'ai des programmes. Et puis, forcément, on va pas se mentir, là, on peut en parler sur le podcast, c'est aussi une façon de se dire, bah, je mets en place des revenus passifs pour pouvoir par la suite dégager du temps. Bah, je sais pas, je peux avoir envie de faire un bébé dans quelques temps et me dire, bah, attends, si je donne plus aucun cours, ça veut dire que j'ai plus de ressources. Donc, qu'est-ce que je mets en place? Bah, le programme, j'ai envie qu'il devienne autosuffisant, en fait, que ça permette d'avoir un flux. Evergreen, voilà. Donc, c'est aussi, ça a été aussi une étape pour moi de me dire, bah, je consolide en fait
Comment
mon business.
Aussi, ouais. Alors oui, tu consolides, mais tu sèmes aussi justement un petit peu ce côté automatique en ligne qui du coup n'est plus un engagement temps argent, mais voilà, tu produis quelque chose une fois et tu peux le vendre à un nombre illimité effectivement d'élèves en fait.
Et puis j'aime bien aussi l'idée de me dire, bah voilà, je diversifie aussi mon approche, parce que les cours d'une heure c'est cool, mais bon, moi mon rêve c'est de faire des retraites tout le temps, mais bon, on peut pas. Et donc là le programme, bah voilà, c'est de dire, encore une fois, il y a aussi cette volonté de ma part, c'est de rendre le yoga accessible facilement, avec peu de temps, avec peu de moyens, et le programme m'a permis ça, voilà.
Et du coup, sur cette période-là, pendant laquelle tu en as fait la promotion, entre guillemets, enfin, ce fameux mois où ton copain t'a dit il va falloir teaser un petit peu, tu as utilisé quoi comme support, comme axe de communication, en fait, pour justement réchauffer ton audience? Alors, des posts peut-être, des stories, est-ce que tu as utilisé l'emailing? Est-ce que tu as fait plus de lives ou des lives ou je sais pas, qu'est-ce que tu as fait?
Alors, j'ai pas fait de live, j'en ai parlé en newsletter. J'en ai parlé deux ou trois fois en newsletter, avec justement un lien pour s'inscrire
sur la liste d'attente.
Et j'avais prévu, en fait, je me suis fait une liste de posts. Donc, j'ai utilisé la planification de posts pour la première fois.
Bravo.
Avec une histoire découpée en étapes. Donc, j'ai utilisé Creator Studio pour Instagram. Et donc voilà, après bon, il y a eu des fois où j'ai remodifié un peu des choses parce que je me disais, ah non, mais c'est dans ça dont je veux parler et tout ça. Et là c'est pareil, tu te mets dans la peau d'une marketing woman, ce qui n'est pas du tout mon fort. Et je me suis dit, bon bah ok, comment je peux axer les choses et tout. Mais en fait ça, c'est après, ça s'arrête jamais, hein, parce que même encore aujourd'hui, là j'ai relancé, il y a eu des ventes qui se sont relancées cette semaine à l'approche d'un début de mois, comme quoi en fait je pense qu'il faut que je joue sur ça. Faut savoir aussi tirer des leçons de ce qui se passe. Hein.
Exactement.
Si les gens ils ont besoin de commencer le premier du mois, bah souhaite. Hein. C'est tous les premiers du mois qu'il y a un batch de vente et puis c'est OK.
C'est aussi pour ça qu'il faut passer à l'action. Et même si la première version a le sentiment qu'elle n'est peut-être pas encore parfaite, ou voilà, et ben c'est justement ce genre de retour-là qui vont te permettre derrière d'améliorer encore plus ta com et en tout cas de voilà, qu'elle corresponde aux attentes de ton public en fait. Donc c'est pour ça que je dis souvent,
tout à fait.
Si on passe pas à l'action, on n'a pas de feedback, on n'a pas de retour des gens et donc on peut pas non plus mieux vendre son offre finalement ou mieux la travailler ou mieux la promouvoir parce que bah on sait pas sur quoi il faut aller quoi. Donc se lancer à l'eau, ça permet d'apprendre ça. Et derrière, bah comme tu dis très justement, peut-être que maintenant ça veut dire que si t'en parles avant le début de chaque mois, d'après, etc. C'est ça qui va faire que ça va convertir encore plus, enfin que tu auras encore plus de ventes, effectivement. C'est peut-être un déclic pour les gens, quoi, d'utiliser cet argument.
C'est ça. Et puis, il faut se renouveler. Tu vois, j'ai vu passer un truc sur ton Insta cette semaine qui disait, mais au lieu de parler de ce que vous proposez, intéressez-vous aux problématiques des gens.
Oui.
Répondez à leurs problèmes, à leurs besoins. Et donc là, je me suis dit, ok, là, en fait, c'est pas comme ça qu'il faut tourner les choses. Faut l'amener comme un truc qui répond point par point à des interrogations. Et ça, c'est pareil, ça s'improvise pas. Faut se renseigner. Ton podcast est utile pour ça, tes posts et tout. Et bon, après, parfois, j'étais noyée parce qu'il y a beaucoup d'infos et je me disais, bon, faut que je fasse le tri, je peux pas tout faire. C'est aussi par ça qu'on passe en tant que prof, c'est que, enfin, sur tout business qu'on met en place, c'est que, faut accepter qu'on puisse pas tout faire parfaitement. Exactement. Comme tu dis, faut se lancer. Et puis, c'est jamais vraiment des échecs. Enfin, moi, j'apprends toujours de ce qui fonctionne pas. Et c'est pas un échec, c'est une façon de changer de perspective, c'est une façon de faire différemment. Mais c'est jamais un échec. Enfin, comme un cours qui a pas de succès, bah c'est pas grave, c'est juste l'horaire en fait qui va pas. Donc c'est pas un échec, c'est... Je suis très optimiste et les jours où j'ai pas le moral ou j'en ai ras-le-bol, c'est parce que bah c'est comme ça, c'est comme tout le monde quoi. Enfin, c'est juste ça. Enfin, mais ça remet pas en cause qui on est, ça remet pas en cause de ce qu'on propose. C'est au contraire une façon de pouvoir bah tester des nouvelles choses et être encore meilleur.
Exactement. Et une dernière petite question sur ton programme, Juliette. Comment tu as défini son prix? Le prix de ton programme? Ah oui, c'est une petite dernière grosse question.
La réponse D. Écoute, la question... alors la question... Oh bah non, mais alors moi au début, mon programme, je pense que si j'avais pu le donner, je l'aurais donné.
Ouais, normal.
Ah, voilà. Et en fait, ce qui a été un déclic, c'est que j'en ai parlé avec une pote prof de yoga avec qui je vais travailler prochainement sur un projet. Je lui ai dit, voilà, je vais le vendre 47 euros. C'est ce truc du 7 là, qu'on entend partout sur les trucs en ligne et tout machin. Le 7. Elle me dit, quoi, 47 euros? Mais t'es malade et tout, mais tu te rends pas compte le travail que t'as mis derrière, mais c'est n'importe quoi. Je me suis fait pourrir, mais vraiment pourrir. Et elle m'a dit, non, mais 47 euros, ça n'existe pas. Elle était là, moi c'est 89, j'ai dans la tête 89 et tout. Je dis, non, mais 89, ça va pas ou quoi et tout. Je dis, c'est presque, enfin c'est le double. Ouais, je me sens pas. Je lui ai dit, écoute, je vais réfléchir à un entre-deux. Et je me suis dit, bon, ok, 79 euros de prix de vente et une phase de lancement à 59 euros. Et moralement, ça a été difficile, Cécile, et à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Enfin, franchement, je me disais, non, mais personne va acheter un truc à ce prix-là et tout. Encore ce syndrome de l'imposteur. Et puis en fait, je me suis dit, bah si, mon programme, il a une valeur. Parce que c'est comme un cours sur Zoom, les gens voient que le temps qu'on passe à leur donner le cours, mais ils savent pas tout ce qu'il y a derrière. Ils savent pas que notre facture d'électricité, elle a doublé depuis l'année dernière, parce qu'on passe notre vie à charger notre micro, notre PC, qu'on a toutes les lumières allumées dans la maison pour que la lumière soit bonne. Enfin, il y a ça aussi, je fais une petite parenthèse, mais il faut le dire, quoi. Enfin, on a des coûts fixes, cachés, derrière un cours. Et puis en fait, je me suis un peu donné la réflexion et me dire, mais non, mais en fait, je suis à l'aise avec ce tarif et on verra bien ce que ça donne. Et le fait est que, alors forcément, il y a une grosse vague au tarif de lancement, mais en fait, aujourd'hui, le programme, il se vend à son tarif normal. Parce que c'est comme pour tout, il y en a pour tout. Il y a des gens qui vont acheter à n'importe quel prix et tout dépend de ce qu'on met derrière, en fait, comme valeur. Et moi, actuellement, c'est mon seul programme. Et je me suis dit, si déjà dès maintenant tu proposes quelque chose à bas prix, mais comment tu vas faire après pour pouvoir proposer quelque chose qui, bah déjà, à qui tu donnes de la valeur? Je ferai pas un cours privé à 30 euros. Même si pendant longtemps j'aurais été tellement prête à donner des cours privés que là encore, j'aurais dit, bon bah d'accord, d'accord. Et aujourd'hui, d'avoir fixé ce tarif-là sur mon programme, déjà me rend sereine. Ouais. Je suis ok avec ce tarif. Et surtout, ça m'a permis par la suite, quand j'ai reçu des mails pour des cours privés où j'ai dit, bah voilà, le tarif d'un cours privé, c'est ça. On m'a dit, ah non, c'est trop cher. Et je me suis dit, bah non, c'est pas trop cher en fait. Pose-toi la question, si je viens jusque chez toi, que je repars, que je te prépare une séquence faite sur mesure, que t'es débutant, va falloir tout expliquer, ceci, cela. Donc je lui ai pas dit ça.
Non, mais j'ai répondu. T'as permis toi d'être à l'aise et de savoir dire non aussi quand.
Et je me suis dit, attends, je suis prof depuis plus de 2 ans et demi, je travaille comme une dingue, je donne beaucoup de cours, je me documente, je continue de me former. Là, j'ai une formation très prochainement pour parce que j'ai envie de continuer et tout. J'investis dans mon activité. C'est pas du vol en fait. C'est juste que intellectuellement, il y a aussi un truc qui joue beaucoup et qui peut peut-être intéresser les profs. C'est pareil sur un cours privé. Quand on fait un cadeau avec des tarifs trop bas, bah mentalement, quand tu es en train de donner ton cours, tu es en train de compter et de te dire, bah j'aurais pu prendre 20 euros de plus. Ou j'aurais été, tiens, en fait, je suis en train de me rendre compte que là, 40 euros, je me rends pas service. Et alors, je dis pas que mon cours est de moins bonne qualité, mais ça pop dans la tête de se dire, je me suis sous-vendue.
Ouais, mais je suis carrément d'accord avec ça. Le risque, après, c'est en fait, du coup, de devenir... pas aigri, tu sais, mais en fait de finalement pas t'éclater dans ce que tu fais parce que justement tu sais que tu le fais pas à sa juste valeur Et en fait, ça vient, toi, t'impacter plus que finalement les élèves ou autres. Enfin, et indirectement, ça risque d'impacter les élèves. Mais voilà, il vaut mieux être... c'est important, ouais, d'être aligné et de ne pas avoir ce genre de réflexion. Et c'est hyper intéressant que tu mettes le doigt là-dessus parce que je suis 100% d'accord avec ça. Il faut vraiment être aligné avec ses prix et pas se sous-estimer pour cette raison-là aussi, ouais.
Et c'est pas évident parce que pareil, en début d'année, j'ai augmenté les tarifs de mes cours collectifs. Alors, de pas beaucoup, de 1 euro, 4 euros. Et je me disais, ouais, machin. Et après, j'ai dit, non, mais non, en fait, enfin, c'est comme ça. Et je le fais pas juste pour le faire. Je le fais parce que mon offre évolue, mon travail évolue, et ceci et cela. Et... Mais c'est un gros travail de mindset, hein. Et ça va avec le reste. C'est si tu te dis tous les matins je vais pas y arriver, tu y arrives pas. Si tu te dis tous les matins je suis trop cher, personne va acheter, non, les gens ils achètent pas. C'est que de la croyance limitante.
Ouais, exactement. On est en phase là-dessus, mais c'est intéressant d'en parler sur le prix parce que je sais que c'est souvent une barrière ou un frein, donc c'était hyper intéressant. Bon, alors on a écoulé tout notre temps, Juliette la bavarde. C'est plus un
Juliette
cours,
la
c'est un
pipelette.
Atelier. Juliette la pipelette, c'était oui, exactement.
C'était mon surnom
voilà,
à l'école.
Voilà. Juliette la pipelette. Alors ceci dit, on a eu une conversation passionnante, donc je te remercie beaucoup pour ça. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Quels sont tes prochains projets? Et puis si tu as un petit mot pour la fin, on serait ravis de l'entendre.
On peut me retrouver donc sur Instagram sur le pseudo Jus de Pêche. On peut me retrouver sur mon site internet Smiling Yoga. Et prochainement, j'attends un peu comme tout le monde la réouverture pour proposer des cours en plein air et la reprise des retraites de yoga. Et voilà. Et petit mot de la fin, croyez en vous en fait. Je le dis et on est unique. Et on a tous quelque chose à apporter. Et en s'autorisant à briller, on autorise les autres aussi à briller de leur propre lumière. Voilà, c'est une situation qui est peut-être un peu bancale, comme toujours, de Marianne Williamson. Et en fait, voilà, c'est... dites-vous que toutes les choses que vous ne vous autorisez pas à faire, vous empêchez aussi les autres de le faire. Donc, quel que soit votre physique, quel que soit votre background, quel que soit tout et n'importe quoi... Si c'est en vous, lancez-vous. Et on peut que apprendre, on peut que évoluer. Et on a tous un truc à apporter. Aussi nombreux soyons-nous en prof de yoga, on a tous une place à prendre sur ce terrain. Donc, allez-y, quoi. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup, coach Juliette. Je suis à 100% OK avec ton discours. Merci pour ce mot de la fin. Merci d'avoir partagé avec nous tes coulisses. Merci pour
merci à
toutes
toi.
Les pépites que tu nous as livrées. Je pense beaucoup de mindset dans cet épisode. Donc voilà, je suis ravie. Merci pour mes auditeurs, auditrices. D'ailleurs, si vous avez... apprécier cette interview avec Juliette, n'hésitez pas à partager à fond l'épisode et à nous taguer. Je pense qu'on sera ravis toutes les deux de voir que ça vous a plu. Moi, j'ai passé aussi un super moment. Donc vraiment, bonne continuation à toi, Juliette, et merci pour tout.
Merci à toi, Cécile. Merci de m'avoir écoutée pendant si longtemps. Et merci à... Voilà, je suis vraiment très heureuse d'être là. Et un truc qu'on n'a pas dit, mais... L'interview dépendait aussi du programme. C'était la carotte que je m'étais imposée en te disant « Non, on ne se rencontre pas tant que j'ai pas lancé mon programme. » Et ça m'était sorti de la tête. Et en fait, c'est génial. Donc, merci Cécile. Merci pour tous tes conseils. Merci pour les podcasts, pour tout, parce que ça m'a énormément aidée. Donc, voilà. Je suis heureuse aujourd'hui, à mon tour, de pouvoir contribuer un petit peu à ça. Donc, merci.
Avec plaisir. C'est ma mission, en tout cas. À très vite, Juliette. Bye bye. Si tu as écouté jusqu'ici, c'est probablement parce que l'épisode t'a plu. Si tu veux supporter YogiBiz Podcast, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un témoignage sur Apple Podcast. Et c'est vraiment simple à faire. Tu vas sur l'application Apple Podcast, tu cherches YogiBiz Podcast. Et une fois que tu as trouvé le podcast dans la liste, tu cliques sur « S'abonner ». Et puis, tu descends tout en bas jusqu'à la section « Évaluation et avis ». Ici, tu cliques sur 5 étoiles et tu peux me laisser ton témoignage. Dis-moi par exemple pourquoi tu écoutes YogiBiz Podcast et comment le podcast a eu un impact dans ton business. Un énorme merci à toi d'avoir pris le temps. À la semaine prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.